Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h42 sur BFM Business. Notre club de la bourse aujourd'hui, c'est avec Christian Bitteau. Bonjour, professeur.
Bonjour.
De finance à l'ESSEC. À côté de vous, c'est Wilfried Galland, directeur adjoint de Montpensier Arbevel. Bonjour, Wilfried.
Bonjour.
On a beaucoup de choses à se dire ce matin. On commence avec quoi, Étienne? On commence avec l'ambiance.
Et les semi-conducteurs. Avec, vous avez vu ce week-end, hein, le FT qui évoque que Apple est en train de faire pression auprès des autorités américaines et surtout auprès de l'administration pour Trump pour dire s'il vous plaît, laissez-nous acheter des puces CXMT parce que les puces, on l'a vu notamment, les fameuses mémoires RAM ont vu leur prix flamber hein, ces dernières semaines avec l'intelligence artificielle. Et c'est un marché sur lequel il y a très peu d'acteurs, hein, Samsung, Micron et SK Hynix. CXMT, c'est moins de 10% de part de marché, mais ce serait peut-être l'acteur chinois, hein, bien sûr, qui pourrait venir au secours d'Apple afin d'éviter encore des hausses de prix à l'avenir. Hein, sachant que la semaine dernière, on l'a vu, des Mac ont augmenté de 100-200 dollars, idem sur certains téléphone à venir peut-être hein, au mois de septembre.
C'est la rampocalypse, Wilfried.
Oui, en fait, c'est la rampocalypse. C'est surtout les interrogations sur le devenir économique des goulets d'étranglement. C'est-à-dire qu'on voit exactement que là, on se retrouve face à des entreprises qui bénéficient d'un goulet d'étranglement. Tout le monde veut des produits qui sont parfois des produits assez basiques, hein, en particulier dans le stockage, alors dans les mémoires, mais dans le stockage. Prenez ce que fait SanDisk, par exemple, c'est pas des choses d'une technologie extraordinairement avancée, mais vous en avez besoin pour effectivement tout ce que vous devez construire autour de l'intelligence artificielle. Donc la question, c'est qui va gagner économiquement autour de ce point de goulet d'étranglement. Et l'économie, enfin les recherches économiques montrent qu'en fait c'est pas nécessairement ceux qui sont au cœur de ces produits-là qui gagnent in fine. Et donc la question, c'est à quelle vitesse est-ce que l'économie va s'adapter, les alternatives vont être trouvées, soit comme le dit Étienne, dans ce même secteur, soit dans des diversifications technologiques, dans des diversifications d'approches méthodologiques organisationnelles. Donc ça, c'est effectivement intéressant, et peut-être que ça va forcer quelques hyperscalers, ceux qui véritablement financent en fait tout ce boom autour de l'écosystème tech, à un moment donné, peut-être dès les résultats du deuxième trimestre, à dire on va peut-être stabiliser un peu les investissements, on va pas en faire encore plus, parce que de toute manière, on ne peut plus compte tenu de l'état des chaînes de valeur. Et ça, effectivement, ça va être quelque chose à suivre, parce que tout le monde attend les conséquences de cette annonce qui est inéluctable. On ne sait pas si elle sera ce trimestre ou le trimestre d'après, mais elle est inéluctable.
Christian, c'est pire qu'un goulet d'étranglement. Ça peut être un ralentissement global sur le développement de l'intelligence artificielle.
Non, je pense pas du tout. Bon, là, en ce moment, le marché rame un peu. On peut prendre cette expression.
Remarquable.
Ça rame sur les rames,
Parfait. Non, c'est surtout que, en l'absence d'informations géopolitiques, même si ça a failli chauffer sérieusement ce week-end autour du détroit d'Hormuz, il est clair qu'au niveau atteint par les marchés, et surtout dans les secteurs comme la technologie ou la défense, on en parlera peut-être, la moindre toute petite information fait décaler. Apple, c'est une petite information, mais logique. Le prix des mémoires vives va augmenter, le prix de ces produits qui en consomment le plus, notamment les Mac, va augmenter de 15%, je crois que vous l'avez noté. Tout de même, ça ne baisse rien comme augmentation. Je pense que c'est tout de même un micro-problème par rapport au vrai gros problème qui sera peut-être discuté par les banquiers centraux et qu'on commence à voir. C'est l'augmentation générale et mondiale des prix à la production. Parce qu'on se concentre sur les prix à la consommation, les indices CPI ou les indices PCE, ce que va payer le consommateur. Mais dès maintenant, on constate, et c'est le cas depuis déjà 2-3 mois, que les prix à la production augmentent dans tous les pays. On vient d'avoir la semaine dernière les prix à la production industrielle en Espagne, plus 10%. Aux États-Unis, plus 6,5%. En moyenne, en zone euro, plus 4,9%. Donc ça, c'est plus préoccupant, c'est-à-dire la transmission après les prix de l'énergie à d'autres secteurs que commencent déjà les industriels et les grands services à refléter dans leurs tarifs.
Mais aujourd'hui, on ne les voit pas dans les prix à la consommation. Donc du coup, ça veut dire que les entreprises prennent sur leur marge ?
Ça va prendre du temps. C'est-à-dire que si les produits semi-finis, par les semi-conducteurs, mais vraiment tout ce qui est strictement industriel, qui n'est pas encore le prix, le tarif affiché en bout de chaîne, commence à augmenter, la vraie préoccupation est là. C'est-à-dire que si le conflit ou la fermeture, soyons plus simples, la fermeture du détroit d'Hormuz se poursuit, plus une tension sur la demande des produits pour la défense, des produits pour l'informatique et pour l'IA, là on a un risque majeur de propagation, parce qu'on a l'exemple de 2022. 2022, ça avait exactement commencé comme ça. La même hausse des cours du baril de pétrole, puis la propagation dans les prix PPI, et puis ensuite le prolongement.
Oui, mais en 2022, on avait une augmentation très forte de la demande. Bah, là, Wilfried, on n'a pas
ça. En fait, l'énorme différence, c'est qu'en 2022, on avait boosté la demande en faisant des chèques à tout le monde. C'est-à-dire qu'on était à la fin de la période Covid, et aux États-Unis, les Américains, jusqu'en 2022, ont reçu des chèques, ont reçu directement des chèques. Et donc, en fait, on a eu un choc d'offres que décrit parfaitement bien Christian, et effectivement ce choc d'offres, il faut le suivre parce que il a des impacts en particulier sur les marges des entreprises. Ça c'est effectivement la capacité d'investir plus tard, c'est pour ça que l'investissement sera très important. Mais en même temps, en 2022, on a eu un choc de demande, et donc on a eu cet effet d'entraînement, choc d'offres, choc de demande. Là aujourd'hui, on n'a pas de choc de demande, sauf dans quelques cas très particuliers, par exemple en France où on a des mécanismes d'ajustement qui se mettent en place très vite. Mais au niveau de l'économie mondiale, on n'a pas ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas un problème encore à ce stade macroéconomique. Il faut le suivre, ce que dit Christian est tout à fait exact, il faut le suivre. Le sujet majeur, il est effectivement sur la capacité des entreprises à maintenir un rythme d'investissement cohérent avec des tensions sur les chaînes de valeur. Et donc, il est probable qu'à un moment donné, on va se retrouver effectivement avec un changement dans la trajectoire de cet investissement. On a parlé de la course au CAPEX. Je pense qu'on va avoir très rapidement la course à la rationalité des CAPEX. Un peu comme quand Meta, il y a 2 ans, a annoncé que bon, le métaverse, c'était bon, on allait arrêter.
Donc des coupes dans les investissements, on y a.
En tout cas, une stabilisation, et on va d'abord commencer à délivrer les investissements qui ont été annoncés. Pour l'instant, il y a beaucoup de promesses. Quand vous regardez ce qui est effectivement construit aux États-Unis et dans d'autres pays, la construction, ça avance, mais ça avance au rythme où justement les matériaux sont disponibles, les ouvriers sont disponibles, les capacités technologiques informatiques et électriques sont disponibles. Donc ça prend du temps. Il va falloir remettre peut-être un peu de rationalité et de temporalité différente dans tout ça. Ça, il va falloir le digérer aussi pour les marchés, mais c'est pas forcément un événement négatif.
Le débat qui fait rage sur BFM Business, auquel Étienne prend largement part, sur cette question de l'inflation. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle est inflationniste ou désinflationniste? Soit à moi sur BFM Business pour s'exciter sur ce type de sujet, mais quand même,
au cœur du débat.
Christian, vous dites-vous, à court terme, c'est inflationniste?
Un petit peu, mais c'est pas l'intelligence artificielle, c'est tout simplement, il y a effectivement un choc sur un excès de demande sur certains composants qui vont du semi-conducteur à la RAM, à la mémoire en ce moment. Voilà, ça c'est très demandé. C'est pas trop grave, ça c'est ce qu'on appelle un pic sur les prix, c'est un peu comme l'énergie. Si le cours du baril de pétrole est monté à 110, qui est le cas, s'il se stabilise à nouveau vers $70 le baril, on n'en parlera plus dans 6 mois, d'accord? C'est si ça dure plus de 6 mois qu'effectivement ça aura un impact, parce que ça aura le temps de se propager. Donc ça serait pas trop grave. Non, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle entraîne des gains de productivité. C'est le pari de M. Kevin Warsh, le nouveau patron de la Federal Reserve. Il l'a dit explicitement, il attend de mesurer ça. Alors, je suis allé fouiller, je pense que tu l'as fait aussi, Wilfried, sur les gains de productivité. Alors, la productivité, en fait, c'est très facile à mesurer, mais comptablement, c'est très long. On mesure tout simplement le PIB d'une économie ou d'un secteur, et on le divise par le nombre d'heures travaillées, soit dans un pays, soit par secteur. Bon, normalement facile. Il faut du temps avant d'avoir le PIB exact. Vous voyez que, par exemple, le PIB américain, ça fait 3 fois qu'il est révisé. D'ailleurs, c'était une bonne nouvelle. Il a été révisé en hausse pour le premier trimestre à plus 2,1%. Bonne nouvelle au passage, tout de même, ce qui explique le soutien des marchés malgré toutes les nouvelles qui font peur. Alors, maintenant, on a le PIB, on a le nombre d'heures travaillées, on va voir les chiffres de l'emploi jeudi, je crois, en fait. Ça tombe jeudi, ce qu'on disait, oui.
Ah bon, c'est bouleversant, ça. Ah oui, c'est parce que c'est fermé.
Vendredi, c'est férié aux États-Unis.
Ah oui, c'est le 4.
Parce que c'est les 250 ans.
Ah, c'est pour ça que tout est jeudi.
J'ai vérifié ce matin sur le calendrier du BLS, mais
alors, OK, il y a un débat.
Gros là aussi, gros conflit entre les experts. Alors, donc, quand on fait cette mesure-là, en fait, si on le regarde juste d'un trimestre sur l'autre, c'est assez difficile. Il faut regarder une courbe, d'après moi, à long terme. Si on prend une base 100 en 2018, où on a la même base 100 pour la zone euro, en 100 de productivité en 2018 pour la zone euro, on passe à 104 aujourd'hui. Pas de gain de productivité. D'ailleurs, on le sait, c'est-à-dire quasiment pas sur toute cette période, on le sait. Aux États-Unis tout de même, mais c'est pas énorme. Au total, on passe de 100 à 120. sur ce même indice. Donc il y a des gains de productivité, mais on est de l'ordre de 2-3%. Ça s'améliore un peu, mais c'est pas grand-chose. Donc il y a un petit plus aux États-Unis, mais ça n'est pas encore suffisant pour qu'on puisse dire que ça produit effectivement des gains de productivité.
Mais cool pas, Wilfried a raison, c'est bien jeudi.
Mais Wilfried a toujours raison. Je sais pas pourquoi vous avez commencé à vouloir argumenter.
C'est anecdotique.
Je me suis trompé de moi. J'ai regardé le calendrier du mois de juin.
C'est totalement anecdotique.
C'est pas grave. Le 4 juillet, tout est fermé aux États-Unis. C'est pour ça. Il y aura pas de marché.
Surtout, c'est fermé la veille. En fait, le 4 juillet, effectivement, Étienne avait le 4 juillet, c'est samedi. Mais en fait, c'est fermé la veille le 3, en fait. Voilà.
On dit un mot des taux avec Sintra.
Oui, Sintra, début aujourd'hui au Portugal. Hein. Chaque année, Christine Lagarde tient
symposium.
Voilà, où elle invite tous les grands banquiers centraux. Alors tout le monde sera là, hein, avec bien sûr Kevin Warsh. Donc là, ça sera mercredi, où il va participer à une table ronde, bien sûr sur l'intelligence artificielle, hein, parce que c'est vrai, Christian en a parlé. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis surtout un petit peu sur sa politique à venir, puisqu'il a donné quelques éléments là il y a une dizaine de jours lors de sa réunion. Mais le marché est en plein doute là aussi, hein, comme sur de nombreux sujets, dans le sens où en début d'année, le marché pensait que la Fed allait baisser ses taux, puis finalement qu'elle allait laisser ses taux inchangés. Et alors là, quand vous regardez les anticipations, on est clairement sur des hausses de taux, voire même peut-être un peu trop, puisque les estimations, c'est 2 à 3 hausses d'ici à la fin de l'année, avec une estimation plutôt franche, hein, 60-70% dès le mois de septembre.
Et Wilfried Galland ?
Bon, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on ait une hausse de taux dès septembre.
3 d'ici la fin de l'année, ça serait un peu violent.
Voilà, je pense que les marchés n'ont toujours pas compris qu'en fait, Kevin Warsh voulait renverser le flux de contraintes. C'est-à-dire qu'il prend les données de marché comme étant des données pour alimenter sa réflexion, mais ce ne sont pas les marchés qui vont lui dire ce que lui doit faire. Il a été très clair là-dessus. Or, en septembre, on va déjà avoir une baisse, toutes choses égales par ailleurs, des chiffres d'inflation, parce que on a le pétrole qui baisse. Et donc, ça va être l'occasion au minimum de temporiser. En revanche, ce qui va être très important, c'est de voir à Sintra, effectivement, comment est-ce que les débats vont se tourner autour des tendances fondamentales de l'économie. Est-ce qu'on a une tendance fondamentale de l'économie à la désinflation, à la déflation même, ou est-ce que on a, parce qu'on a des changements profonds dans la démographie, parce qu'on a des changements profonds dans la compétition pour l'épargne, est-ce qu'on a cette tendance à la désinflation qui est stabilisée, voire renversée, et on va avoir plus d'inflation? Et je pense qu'il y a vraiment des débats entre les banquiers centraux sur ce sujet-là, qui n'est pas uniquement un sujet technologique, un sujet fondamental. Et puis, comment est-ce que les banquiers centraux doivent adapter leurs outils? Est-ce que les outils de bilan sont toujours des outils qui sont pertinents? Est-ce qu'il faut se reconcentrer sur les outils de taux d'intérêt? Que faire, par exemple, sur la partie de régulation bancaire? Il y a vraiment beaucoup de débats sur quel est le rôle des banquiers centraux là-dessus. Donc on attend, il y a toujours, voilà, avant l'été c'est Sintra, à la fin d'été c'est Jackson Hole. Et
ça vous fait un été chargé, Wilfried.
Et entre les
bien
deux,
sûr, au milieu, et entre les en juillet. Il reste 20 secondes, Christian.
Alors je pense que les marchés de taux nous donnent la réponse, tout de même nous l'a dit, c'est-à-dire que les taux longs ont finalement très peu monté par rapport aux événements depuis le début de l'année. 0,10 de plus pour les taux 10 ans américains, 0,20, 0,30 pour les taux à 10 ans français. Parce que les marchés ont tout même constaté que par rapport à 2022, qui est la dernière phase vraiment restrictive des banques centrales, le dernier crack obligataire, les taux de la BCE étaient à 0, ils sont passés à 4%. Les taux de la Fed étaient à 0,25, ils sont passés à 4,5%. Aujourd'hui, la BCE a augmenté de 0,25% ses taux, passe pour le refinancement de 2,15 à 2,40. La Fed le fera peut-être une, peut-être deux fois, mais là, si je rejoins Wilfried, peut-être une fois, mais on est déjà à des taux qui sont proches de 4% aux États-Unis, donc il n'y a pas besoin de la même sévérité. Les banques centrales vont agir par principe de précaution, elles le doivent, parce qu'on voit bien les indicateurs d'inflation montent un peu, mais pas trop. En tout cas, ce que nous disent les marchés obligataires, c'est qu'on peut être rassuré par rapport à cette position.
Merci.
Ça ne sera pas la dramatique hausse des taux de 2022.